Territoires d'Info, une revue hebdomadaire de l'actualité des assemblées territoriales et municipales des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Territoires d'Info par Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste IJL. Bienvenue à Territoires d'Info. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine dans l'actualité. On l'apprenait mercredi, la ministre Katrina Nokolbe s'est fait démettre de ses fonctions de ministre. La première ministre Caroline Cochrane dit avoir perdu confiance en elle et en ses capacités de gérer ses ministères. Le conseil municipal de Yellowknife a rejeté cette semaine un projet de centre de jour temporaire qui aurait dû accueillir les personnes sans-abri dans le centre-ville. Le GTNO doit maintenant étudier d'autres options. Après la tumulte des derniers mois, la santé publique des TNO se prépare à solidifier ses mesures face à COVID-19 à temps pour l'automne. Ma collègue Cécile Antoine Maisonnade nous présente une enquête sur le traitement de certaines plaintes par le bureau du commissaire aux langues officielles des TNO. Et finalement, en cette période de crise économique, la Chambre de commerce des TNO incite les résidents à encourager leur économie locale avec les journées Shop Local Days. À Hay River, ça se passe ce vendredi 21 août. Le nombre de personnes en isolement, en auto-isolement sur le territoire atteint présentement des records en date du 19 août. Les membres de plus de 1100 foyers étaient en isolement sur le territoire. C'est un record depuis l'établissement des règles aux frontières. Mais malgré qu'il y ait un afflux important de personnes qui arrivent de l'extérieur du territoire, il n'a pas encore été possible d'augmenter le nombre d'agents qui veillent à assurer que les plans d'isolement sont respectés. Le renforcement des ressources de la santé publique serait actuellement traité en priorité. Comme le souligne l'administratrice en chef de la santé publique, la Dr Camille Candola, les mesures de santé publique actuelles ont été mises sur pied très rapidement au printemps dernier pour répondre aux défis immédiats imposés par la COVID-19. On serait présentement en train de consolider ces mesures qui devront assurer la sécurité des Ténois pour les mois à venir, et ce, dès la rentrée.
And so it's about increasing capacity, but also increasing technology to adjust to the demand that we're seeing. No one anticipated that COVID-19 would last this long. So we are going into the fall with putting our response to COVID-19 as a high priority, not only from protection of the BT, but also from the compliance angle.
La Dr Camille Candola explique ici que personne n'aurait pu prévoir que la COVID-19 durerait aussi longtemps. On approche de l'automne en plaçant cet enjeu en haute priorité. Elle indique également qu'on souhaite embaucher plus d'employés pour faire appliquer les règles. On souhaite également améliorer les technologies qui sont disponibles afin de s'ajuster à un besoin croissant, là, notamment en service de dépistage. À l'heure actuelle, les agents affectés à l'application des règles de santé publique liées à la COVID-19 occupent d'autres fonctions en parallèle. Ainsi, en plus de leur rôle d'agents de la santé publique, des agents forestiers, des agents de la faune et d'autres employés du gouvernement doivent également s'acquitter des tâches quotidiennes exigées par leurs bureaux respectifs.
We are moving in the direction of hiring full-time casual compliance individuals in some of the regional offices. That we'll be focusing solely on compliance under the public health orders. And those are some of the things that, like I spoke of, that we're doing to move forward and to evolve into something that is a bit longer term of a response to COVID.
L'adjoint de la Dr Candola, le numéro 2 de la santé publique des TNO, Conrad Bates, a indiqué que l'administration considère l'embauche d'employés à temps plein dans certains des bureaux régionaux qui se concentreront spécifiquement sur le respect des arrêtés de santé publique. Pour l'instant, en plus de faire un suivi rigoureux des plaintes liées à une infraction aux règles d'isolement, la santé publique en appelle essentiellement au sens civique des personnes concernées. Comme l'explique M. Bates, il est important de comprendre que c'est la responsabilité des personnes, de ces personnes, de protéger les gens autour d'elles et de s'assurer de suivre correctement le protocole d'auto-isolement. L'administration de la santé publique anticipe également une augmentation accrue des besoins de dépistage. Les systèmes GeneXpert et BioFire Diagnostics sont actuellement employés ou pourront l'être prochainement pour ce qui est du système BioFire. Un autre système de dépistage est présentement à l'étude et pourrait être bientôt mis à la disposition des Ténois. Comme l'indique la Dr Candola, c'est l'une des priorités de la santé publique à l'approche de l'automne, de la rentrée scolaire et de la saison de la grippe. On s'attend à un accroissement de la demande pour des tests. La santé publique souhaite être en mesure de dépister les gens qui ressentent des symptômes afin qu'ils puissent retourner à l'école ou au travail le plus rapidement possible, lorsque ce sera possible. Les territoires du Nord-Ouest comptent 11 langues officielles. Si un citoyen se sent lésé dans ses droits linguistiques, il peut se tourner vers le Bureau du commissaire aux langues, DTNO. Selon les deux plus récents rapports annuels du Bureau, aucune plainte n'a été déposée de 2017 à 2019. Et après deux années donc de passage à vide, le Bureau a enregistré durant l'exercice 2019-2020 une dizaine de plaintes. Et certains citoyens qui se sont prévalus du service du Bureau du commissaire aux langues déplorent un traitement insatisfaisant. Ma collègue Cécile Antoine-Maisonnade s'est penchée sur la question. Elle a fait enquête pour le journal L'Aquilon. Elle est avec nous ce matin pour nous en parler. Bonjour Cécile.
Bonjour Thomas.
Donc une hausse importante quand même des plaintes là, qui ont été rapportées en 2019-2020.
Oui, effectivement, et c'est une information qui a été confirmée par l'actuel commissaire aux langues Shannon Goldberg, qui terminera d'ailleurs son mandat, si tout va bien, en octobre prochain. Donc 10 plaintes qui ont été déposées au cours de l'exercice 2019-2020, et aucune plainte n'avait été déposée depuis 2 ans. Alors elle a plusieurs explications à nous donner concernant cette absence de plainte. On l'écoute.
One would be, I think, for Indigenous folks, and this is a generalization, mm-hmm. but the idea of filing a complaint mm-hmm. is foreign to a lot of Indigenous folks. An Indigenous elder is unlikely to file a complaint. I can think of a fellow who had an issue with respect to a government website. He didn't want to file a complaint, but he had some really good suggestions on improving communication with Indigenous people. And so I need to respect he didn't file a complaint, but I was able to chat with government officials. I think the other thing is, I think trying to deal with things collaboratively, and I'm not going to say that's always worked, but I think there's... that's productive as well. Yeah, people are looking for other means other than complaint processes to deal with issues.
Alors, Shannon Goldberg, donc l'actuelle commissaire aux langues, donne plusieurs explications. Tout d'abord, elle explique d'un point de vue autochtone, elle explique bien que c'est une généralisation, que l'idée de remplir une demande de plainte n'est pas dans leurs habitudes et qu'elle leur laisse le choix de ne pas le faire et de discuter d'elle-même par la suite avec les membres du gouvernement. Et elle explique aussi dans un deuxième temps que l'absence de plainte peut être justifiée par le fait que les gens essayent davantage de collaborer directement avec les membres du gouvernement sans passer par le bureau.
Revenons aux plaintes qui ont été déposées durant l'exercice 2019-2020. C'est d'ailleurs à l'origine de l'enquête que vous avez menée, Cécile. Vous avez discuté avec deux des plaignants qui ont pointé des lacunes dans le traitement de leurs plaintes par le bureau du commissaire aux langues officielles. Qu'est-ce qu'on reproche au bureau exactement?
Alors, il y a plusieurs points qui sont soulevés par les plaignants. Donc déjà, tout d'abord, Suzanne Hood, qui est francophone unilingue résidant à Yellowknife depuis les années 80, elle a eu du mal à aller au bureau pour la première fois déposer une plainte à cause de l'accueil qui est exclusivement fait en anglais. Tout d'abord, Madame Goldberg, la commissaire, est anglophone unilingue, et ensuite son assistante est également anglophone. Donc l'accueil se fait exclusivement en anglais, même si par la suite les rapports sont envoyés, traduits en français ou dans une des 11 langues. Donc ça, c'était un premier point. Ensuite, il y a aussi la confidentialité. Donc ça, c'est un autre plaignant, Xavier Lord Giroux, qui a eu la mésaventure, on peut dire ça comme ça, d'avoir eu son adresse postale, son courriel, son numéro de téléphone qui ont été directement transmises au gouvernement après une plainte. Et son réseau professionnel a été forcément atteint par cela parce que les gens savaient qu'il avait fait une plainte pour un sujet précis. Un autre problème majeur relevé par l'un des plaignants, Xavier Lorgiroux, ce sont les rapports, les recommandations en elles-mêmes faites par la commissaire qui, selon lui, ne rencontrent pas les standards de la profession. Il nous explique cela.
Elle va beaucoup essayer d'expliquer le raisonnement ou défendre les arguments des institutions gouvernementales sans jamais donner un contrepoids à ça et parler des difficultés justement de que quelqu'un qui vit soit en français dans une autre langue officielle minoritaire peut avoir lorsqu'il a à demander ses services. La personne qui occupe ce poste-là actuellement n'a pas les compétences pour le faire. Non seulement est-ce qu'elle brise la confidentialité des plaignants, comme c'était le cas avec moi, mais en plus, elle articule les arguments qui sont contraires à la loi sur la langue officielle. Donc, Shannon Goldberg ne devrait pas rester au commissariat, puis j'espère que la prochaine personne qui sera embauchée aura traversé un processus rigoureux afin de s'assurer que cette nouvelle personne qui va être nommée bientôt ait une véritable compréhension de ce que c'est un commissariat puis de ce que c'est la loi sur langues officielles.
C'était Xavier Lorgiroux, l'un des plaignants au bureau du commissaire aux langues des TNO. C'est donc à lire dans le journal L'Aquilon de cette semaine, un dossier de 3 pages signé par ma collègue Cécile Antoine Maisonnade. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci Thomas.
Katrina Nokolby a été relevée de ses fonctions de ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement et de ministre de l'Infrastructure. La première ministre Caroline Cochrane en a fait l'annonce le 19 août par communiqué de presse, en y indiquant notamment avoir perdu confiance en la ministre et en sa capacité à assumer ses responsabilités. Madame Nokolby demeure toutefois membre du conseil exécutif. Le ministre R.J. Simpson, ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, s'est vu confier le portefeuille de l'infrastructure. Le ministre Shane Thompson, ministre des Terres, assumera le mandat de l'industrie, du tourisme et de l'investissement. Les enjeux ayant mené à cette décision remonteraient au printemps dernier, comme le souligne la première ministre dans le communiqué de presse. La citation se lit comme suit. Au printemps dernier, la ministre et moi-même, nous sommes engagés conjointement auprès des députés de l'Assemblée législative à répondre aux préoccupations qui avaient été soulevées en rapport avec le travail de la ministre. Je n'ai pas constaté de progrès significatif dans la réalisation de ses engagements et j'ai perdu confiance en la ministre et en sa capacité à assumer ses responsabilités. Aucun autre détail n'a été divulgué. On indique que par respect pour la ministre, le gouvernement des territoires du Nord-Ouest ne fera pas de commentaires supplémentaires à ce sujet. La ministre Nokolby a fait face le 27 mai à une motion pour son exclusion du Conseil des ministres, déposée à l'Assemblée législative par le député Steve Norn. Cette motion a été levée le 29 mai avant d'avoir été débattue. Face à l'opposition de commerçants du centre-ville, le conseil municipal de Yellowknife a rejeté le 18 août la proposition du GTNO d'établir un centre de jour temporaire qui aurait été situé au 4903 de la 50e avenue, c'est juste à côté du commerce Overlander Sports. C'est un lieu qui abritait jusqu'à tout récemment un centre d'accueil pour jeunes. La mairesse Rebecca Alty a fait une croix sur le lieu proposé, au terme de 2 rencontres durant lesquelles la majorité des conseillers ont indiqué qu'ils ne voteraient pas en faveur du projet.
Donc, on n'est pas opposé à ça, mais on veut que le gouvernement territorial regarde toutes les options avant de choisir celui-ci.
Le centre de jour actuel, qui peut normalement accueillir de 60 à 80 usagers quotidiennement, a dû réduire considérablement sa capacité pour respecter les règles d'éloignement physique. À l'approche du temps froid, le ministère de la Santé et des Services sociaux a repéré l'édifice en question. Aux yeux du conseil et de la mairesse, le plan présentait des lacunes.
Le plan qu'ils ont proposé avait manqué des choses qui étaient importantes, qui étaient dans l'autre endroit. Ils ont fait une évaluation en août 2019, oui. Et il y avait beaucoup de recommandations à comment améliorer. Et ce nouveau endroit n'avait pas ces recommandations dans leur programme. Donc, on avait des questions et des concerns que ça va être pas safe pour les gens qui vont à l'abri et aussi pour les gens qui sont autour.
Les commerçants du secteur visé par ce plan ont été consultés au préalable et ont exprimé leurs craintes, des craintes que ce nouvel achalandage ne nuise très sérieusement à leurs activités commerciales déjà affectées par la crise pandémique. On s'inquiétait également de la vitalité et de la sécurité du secteur. C'est le cas notamment de Sandra Stirling, copropriétaire de la boutique Overlander Sports, qui partage son stationnement avec l'édifice convoité par le GTNO. Les promesses d'ériger une clôture et d'assurer une patrouille régulière du secteur n'ont pas apaisé ses craintes. Selon elle, plusieurs usagers vont flâner dans le secteur. On risquait d'assister à des bagarres, d'être victime de vandalisme, etc. Elle a notamment souligné la nécessité, si ce plan avait été de l'avant, d'installer des caméras de surveillance supplémentaires à l'extérieur de l'édifice. Les désagréments qui ont été décrits qu'on craignait voir apparaître dans ce secteur auraient été rapportés dans le voisinage de l'actuel centre de jour. Le conseiller Nils Kanga, qui a exprimé une vive opposition au projet, indique qu'au lieu où se trouve le centre de jour actuel de Yellowknife, certains propriétaires ont dépensé des milliers de dollars en caméras de surveillance. Des locataires voisins ont subi des insultes, il y a eu des bagarres, etc. Bref, M. Kanga conclut qu'on a fait l'expérience, que ça n'a pas marché, que de son point de vue, il s'agit d'un échec. Plusieurs conseillers, même s'ils ont exprimé leur opposition à ce projet, ont tout de même souligné longuement la complexité d'une telle décision. C'est le cas du conseiller Julian Morse.
I do believe that most people in the community, and that includes businesses and some of them indeed that wrote to us about this specific request, agree that we absolutely need services for people experiencing homelessness in the city. How and where those services are implemented are really what's in question here.
Le conseiller municipal de Yellowknife, Julian Morse, indique ici que la plupart des résidents, des commerçants du secteur sont d'accord. On a effectivement besoin de services pour appuyer les personnes sans-abri. Demeure tout de même la question du secteur où on peut offrir ces services.
As a few people have pointed out, we're not really talking about a population that can all be lumped into one category. It's not like that at all. As evidence has been shown to us by the RCMP, typically a lot of the problems in our community tend to revolve around a small number of individuals, and lots of people in the population experiencing homelessness are perfectly law-abiding citizens who are just in need of a bit of help and would probably not appreciate being lumped into a category.
Monsieur Morse explique qu'il faut comprendre que ce sont des enjeux très complexes, que cette population ne peut être simplement classée dans une case. La plupart des personnes sans-abri ne causent aucun problème, ne sont pas impliquées dans la criminalité. Monsieur Morse se fie ici même à un rapport de la GRC. Mais ce débat au conseil municipal a mis de l'avant la volonté du conseil à ce que le GTNO procède à la construction d'un centre spécialement dédié aux personnes vulnérables à Yellowknife. Il s'agirait d'une promesse de longue date et certains conseillers n'ont pas manqué de déplorer la situation. C'est le cas de la conseillère Stacy Smith.
Homelessness, social issues, our vulnerable population, it's not a new concept. It's been here for help since I was a kid. It's only grown, it's only gotten bigger, and it's become more of an issue where the city's constantly being given a really raw deal by the GNWT. We need this facility, please give it to us.
Donc, arrêtez de mettre des pansements sur la situation, investissez dans un établissement conçu spécifiquement pour ses besoins. C'est ce qu'explique la conseillère Stacy Smith. Les problèmes vécus par les sans-abri ne sont pas nouveaux, qu'ils existent depuis qu'elle-même est jeune. Et à ses yeux, ça ne fait qu'empirer. On a donc besoin de cet établissement. Ça fait plusieurs décennies que l'itinérance représente un enjeu. La mairesse Rebecca Alty a pour sa part mentionné l'importance de l'insertion au logement.
Le GTNO avec le gouvernement du Canada sont supposés de construire un vrai abri pour ça. Donc, ce sera une location pour le day shelter et aussi le sobering center, et il y aura assez d'espace pour tout le monde. Mais il y a aussi, comme les gens ont besoin des maisons, et ça c'est la vraie solution, et pas comme juste un abri temporaire dans la jour. Donc, quand le gouvernement territorial et fédéral ont donné de l'argent à l'Arnica Inn, ça c'était bon, et on a besoin de beaucoup plus de projets comme ça.
Des solutions de rechange ont tout de même été mentionnées. Le conseiller Nils Kanga, qui a vraiment exprimé une vive opposition au projet, a suggéré de faire affaire avec une compagnie qui installe des abris temporaires pour l'exploration minière dans l'Arctique. Des sites en périphérie du centre-ville ont été suggérés, tels que l'espace situé à côté du centre sportif Multiplex. Un service de navette pourrait, selon lui, en assurer l'accès aux usagers. Les consommateurs des territoires du Nord-Ouest sont incités plus que jamais à encourager leurs commerçants locaux, dont plusieurs ont été durement affectés par la crise pandémique. C'est aujourd'hui, vendredi 21 août, qu'a lieu à Hay River la journée Acheter local ou Shop Local Day. 11 commerces ont choisi d'y participer en suggérant des offres spéciales aux clients qui magasineront dans le secteur. J'en ai discuté avec Terry Rowe, qui est président par intérim de la Chambre de commerce de Hay River, organisatrice de cette journée. À ses yeux, une journée dédiée à l'achat local devra, l'espère-t-il, contribuer à sensibiliser les consommateurs quant à l'importance de prioriser leur économie et ses acteurs, surtout par les temps qui courent.
Shopping local, when you spend local, it stays local, right? Whether it's the individuals that are working for you and serving your food or bagging your groceries, that money stays with them, and that money stays with their families. It goes to schools, it goes to your hockey teams and your soccer teams. When you shop local, money stays local.
Monsieur Rowe explique que lorsqu'on achète des produits locaux, l'argent va directement dans la collectivité. L'argent qui va aux commerçants, aux caissiers, à l'emballeuse sert à s'occuper de leur famille. Il va être distribué dans les écoles, dans les ligues locales de hockey ou de soccer. Bref, c'est de l'argent qui circule au sein même de la collectivité. Cet été, les commerces de la région profitent tout de même d'un certain répit avec la fermeture des frontières. Comme l'explique M. Rowe, les prix peuvent effectivement être plus élevés au territoire du Nord-Ouest, le choix plus restreint. En temps normal, cette réalité incite plusieurs consommateurs à faire leurs achats de la rentrée en Alberta, par exemple. Ce ne sera pas le cas cette année. Mais le commerce en ligne, lui, n'a jamais été aussi populaire.
So I guess online shopping would be the main challenge right now, which obviously can happen, but I do believe that I've heard that there's definitely delays in freight and shipping of items that are getting here, but obviously online shopping is probably bigger than it's ever been, so that would probably be our main challenge.
Terry Rowe explique que la vente en ligne est la principale compétitrice des commerces locaux cet été. Il demeure que les délais de livraison entraînés par la pandémie peuvent en amoindrir les impacts. Les consommateurs préfèrent avoir leurs achats sur le champ en achetant local. Mais le commerce en ligne n'a sans doute jamais été aussi important, donc ça demeure le principal défi à l'achat local cet été. Les journées Shop Local Day tombent donc à point dans les collectivités du territoire. Plusieurs PME se relèvent avec peine du confinement. D'autres n'ont toujours pas pu rouvrir leurs portes et certaines ont dû fermer définitivement.
I think a big issue that's arisen now is staffing and hiring. People are still not maybe comfortably either coming to work or they're not in the working mood just yet. So it's been really hard to find staff to come back to their positions.
Terry Rowe indique qu'à Hay River, c'est l'embauche qui représente sans doute le plus gros problème. Les commerces ont peine à faire revenir les employés et à mener leurs activités habituelles. Lorsqu'ils ont pu rouvrir leurs portes, plusieurs ont dû réduire les heures d'ouverture. C'est la chambre de commerce de Tebacha dans la région de Fort Smith qui partait le bal des journées Shop Local Day mardi dernier, 18 août, avec la participation de 25 entreprises et organisations de la région. La journée achetée locale de Yellowknife se tient le mardi 25 août. Pour la région d'Inuvik, c'est le 1er septembre et Fort Simpson aura sa journée dédiée à l'achat local le 8 septembre. Norman Wells déterminera une date sous peu. Et voilà, c'est tout pour Territoire d'Info. Je suis Thomas Etier, journaliste de l'Initiative du journalisme local. Je souhaite une excellente fin de journée.
Territoire d'Info vous a été présenté grâce à la généreuse contribution du Fonds canadien de la radio communautaire.